Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genard.
Je réponds d'abord à une question. Vous avez dit que le corps manifeste la diversité des opérations du vivant. Pourtant, n'est-il pas aussi une source visible d'unité? Oui. Mais en acte, le point de vue de la diversité, d'une façon sous-jacente, l'unité. Parce que le corps est vulnérable, peut toujours couper un membre. Ce qui montre bien que l'unité, elle est présente, mais elle est moins visible. Ce que je vois en premier lieu, c'est la diversité. Alors je peux dire que c'est une diversité organique, et parce que c'est une diversité organique, elle implique une unité. C'est pour ça qu'on appelle une mutilation. Mutiler quelqu'un, c'est justement enlever quelque chose qui organiquement fait partie de son unité. Oui, alors ça je suis tout à fait d'accord. Heureusement du reste. C'était la pure diversité, vous voyez. On ne pourrait pas dire qu'il y a quelque chose derrière. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, puisque c'est l'exemple cartésien de la montre. Je vois tous les éléments de la montre. Ce n'est pas organique. Donc, l'unité, il n'y a pas de source d'unité. L'unité de la montre est extérieure à la montre. C'est l'horloger. Et comme je ne suis pas horloger, j'ai dévissé tout, mais je ne suis pas horloger. Donc je n'ai pas le principe d'unité. Vous auriez toutes ces choses et vous auriez un ami horloger, vous diriez, voilà, maintenant, j'ai besoin de toi. Et lui, tout de suite, il remonte. Le principe d'unité. Dans le corps, il y a un principe d'unité. Immanent au corps. C'est ça qu'on appelle une diversité organique. C'est quand il y a une unité immanente à la diversité et qui donne à cette diversité son sens. Tandis que pour la montre, l'unité est extrinsèque aux différents éléments, aux différentes parties. Et c'est ça qu'on appelle justement une œuvre artistique. Artificielle, dont l'unité est extrinsèque. C'est pour ça que je ne peux pas inférer une âme, mais je peux inférer un artiste. Et l'artiste, je l'infère d'autant plus quand je suis au milieu de toute cette diversité. Si moi je suis incapable, il faut faire appel, signal d'alarme, il faut faire appel à l'artiste qui peut seul lui reconstituer. Tandis que lorsque je suis en face d'une diversité organique, c'est dans l'immanence du corps que je dois trouver l'unité. Et je vois que l'immanence du corps n'explique pas cette unité organique. Et que je suis obligé de poser quelque chose qui est plus que l'immanence organique. Qui est principe d'unité vitale, l'âme. Donc, dans le corps, il y a une diversité, une unité. Et je dirais, ça renforce le raisonnement analogique, le raisonnement de l'induction. Sauf pour les opérations spirituelles immatérielles qui poussent l'intelligence à saisir une autre source d'unité, plus profonde, au-delà du corps. Je crois que déjà dans l'unité organique. Mais c'est vrai que les deux se tiennent. Alors, comme le philosophe sait la difficulté de l'induction, il aime mieux tout de suite faire appel, puisqu'il s'agit de l'homme, aux opérations intellectuelles et à ce contraste. Mais je crois qu'il pourrait uniquement par l'unité organique, poser un principe extrinsèque. Cette fameuse... C'est une chose délicate, mais très intéressante. Parce que cette unité organique, pour moi, elle est dans la diversité. Elle n'est pas extrinsèque à la diversité. Et la diversité n'explique pas cette unité. Le corps comme tel n'explique pas que le corps soit organique. Le côté organique du corps ne s'explique pas par le corps. Vous allez me dire pourquoi? Parce que le corps est quantitatif. La quantité n'explique pas l'aspect organique. L'aspect organique vital, c'est l'immanence. Et cette immanence ne s'explique pas par la quantité. La quantité, c'est l'extériorité. Et le corps, c'est l'extériorité, c'est le tas de pierres. Mais un tas de pierres, c'est pas organique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âme. Vous n'allez pas dire que ce tas de pierres, il se met à respirer. Tandis qu'au contraire, vous pouvez dire, je me souviens, c'était un matheux, ils ont toujours des idées très extraordinaires. Il disait, quand je traverse un bois, au clair de lune, à la pleine lune surtout, je sens les arbres respirer. Très bien ce qu'il voulait dire. Je sens les arbres respirer. Vous n'avez jamais senti un tas de briques respirer. Il y a quelque chose de la vie organique. Les arbres respirent, c'est sûr. Ils ne ronflent pas. C'est propre à l'animal. La vie végétative est silencieuse. C'est une respiration silencieuse. Et les poètes ont très fort le sens de l'induction. Très très fort. Peut-être même seul. C'est pour ça que les poètes sont proches du philosophe, sur ce point de vue-là. Platon le disait, les poètes, les mystiques, les philosophes ont quelque chose de semblable. Parce qu'ils cherchent la source. Et le poète, quand il est vraiment poète, découvre par la source des analogies métaphoriques. Alors, dans l'induction de l'âme, le corps n'est-il pas l'analogue de la substance première? Oui, sûrement, parce qu'il fait le pose, le comment, et donc il manifeste comme la substance première. Donc, n'est-il pas l'analogue de la substance première dans l'induction de la substance? Les deux seraient au-delà de diverses opérations ou déterminations. Oui, alors l'un est source et l'autre est sujet. Vous voyez? Le corps fait l'unité d'une manière subjective, comme sujet de la diversité, donc d'une manière matérielle, alors que la substance, comme principe, fait l'unité d'une manière formelle. Pourriez-vous repréciser ce que vous voulez dire quand vous parlez de l'âme comme source d'intelligibilité pour le corps? Comme Aristote dira, l'âme est la quiddité du corps. C'est très très fort. L'âme est la quiddité du corps. Non seulement la source, mais comme l'âme est immanente au corps, le corps est intelligible par l'âme. Très très fort cette affirmation. C'est-à-dire comme ce qui me fait comprendre le corps. n'est-ce pas le ce par quoi le corps est corps, et corps vivant, et corps humain, et non pas cadavre. Oui, le cadavre de l'homme est-il différent formellement du cadavre de la vache? Question très intéressante. Le cadavre de l'homme est-il encore un cadavre humain? Le cadavre de la vache est-il un cadavre, je sais pas comment on dit. C'est pas humain, c'est pas humain, mais c'est du côté de la vache. Vous voyez, c'est très curieux. Vous rendez un respect vis-à-vis du cadavre dans toutes les religions. Parce que vous considérez que le cadavre humain a été habité par une âme humaine. Et donc qui garde un lien avec l'âme humaine. Et s'il garde un lien avec l'âme humaine, il est bien un cadavre. En tant que cadavre, il se réduit à la matière, mais parce qu'il provient de l'âme, il y a quelque chose qui demeure. Une relation. Et je crois que dans les traditions religieuses, ce quelque chose qui demeure est lié à une sorte de glorification, de résurrection sous-jacente. Dans le christianisme, c'est net. Je crois dans toutes les religions. C'est pour ça qu'on respecte le cadavre. Oui, oui.
Est-ce qu'on va faire à ce propos-là une expérience particulière auprès des cadavres de personnes qui ont eu un rayonnement spirituel fort, où tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il reste encore dans le corps comme une certaine aura, une certaine manifestation de la grandeur de ce qu'elle est.
D'où les reliques. Les reliques des saints. Il y a quelque chose qui demeure, une certaine relation qui demeure. Alors, au point de vue chrétien, on peut dire qu'il y a l'attente de la résurrection des corps qui fait qu'il y a quelque chose de plus. Mais au plan purement philosophique, on peut l'expliquer du fait même que l'âme a habité le corps. Et l'âme habitant le corps a été propriété de l'âme. L'âme a imprégné ce corps de quelque chose de particulier. Vous voyez, un peu comme le linceul de Turin. Ce linge a été imprégné d'une force divine.
Et est-ce que la crémation qui est en usage, par exemple, dans l'hindouisme ou même dans l'ancienne religion des Perses, c'est pas justement un refus de cette noblesse que le corps...
Parce que par derrière, il y a un manichéisme sous-jacent. Le corps est mauvais. Vous voyez ? Alors que s'il y a ça, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut quitter le point de vue des générations et de la procréation. Parce que le corps est mauvais. Il y a ça. Le manichéisme est une chose très très puissante. Le dualisme, quoi, tout simplement. C'est une chose extrêmement puissante au point de vue même tradition religieuse. Il faut déjà dépasser tout le manichéisme pour comprendre que le corps en lui-même n'est pas mauvais, que la sensibilité en elle-même n'est pas mauvaise, et qu'elle est au contraire le reflet de l'âme. Alors à ce moment-là, le corps, reflet de l'âme, devient l'habitat, devient le lieu, la maison de l'âme. Vous voyez ? Et il reste quelque chose. C'est pour ça que je ne peux pas identifier le cadavre humain et le cadavre de la vache. Parce qu'il reste une relation. Oui.
Est-ce que c'est comme les derniers effets d'un certain contrôle de l'âme sur le corps
ou... Les derniers.
Les effets, en fait.
Oui, les effets derniers, oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'on dira, ce malade a bon moral, il tient, grâce à son moral. Tous les médecins sont obligés de reconnaître ça. Il y a quelque chose qui domine l'âme, qui domine. domine le corps. Nous nous disons l'âme, principe d'unité. Et quand le corps est fatigué et malade, la crise, la dispersion. Et l'âme est principe d'unité. Elle n'accepte pas cette diversité. Du moins, elle la dépasse.
Est-ce que ce qui reste entre l'âme est toujours lié à l'âme ?
Oui. Et au moment où le cadavre se disperse, l'unité de l'âme est beaucoup moins visible. Bon. Alors, ceci n'explique pas directement la question posée. La question posée, c'est d'essayer de comprendre les rapports entre la forme et la matière. En réalité, c'est ça. Alors, ramenez-vous toujours aux premières analogies de la distinction forme et matière. Première analogie, l'œuvre d'art. Tout le monde est d'accord que dans l'œuvre d'art, c'est la forme qui donne toute l'intimité à l'œuvre. C'est pas la matière. La matière modifie. C'est très vrai, une statue d'airain n'est pas la même chose qu'une statue de bois. Mais l'intelligibilité demeure toujours la statue comme telle. Mais il y a un mode particulier, quelque chose de particulier qui provient de la matière. Et ce n'est pas rien, c'est essentiel. Mais ce n'est pas ça qui donne l'intelligibilité de l'œuvre. Ce qui est vrai de l'œuvre d'art est vrai de toutes les autres réalités de la matière, toutes les autres réalités physiques. Et donc, du corps humain par rapport à son âme. C'est l'âme qui donne au corps humain son intelligibilité substantielle. Et le corps apporte une intelligibilité modale. Ce qui explique qu'il peut y avoir une connaissance biologique, scientifique, qui ne tient pas compte de l'âme. Mais pas philosophique. C'est là la différence entre la science et la philosophie. La philosophie veut aller jusqu'au bout et donc saisir la source et la cause. Tandis que la science ne cherche pas ça, elle cherche les lois. Et les lois, c'est toujours quelque chose de relatif. C'est jamais fondamental. C'est le comment et non pas le pourquoi. Si c'est le comment, on voit les réactions, l'aspect fonctionnel du corps. Et ceci, que le corps ait une certaine intelligibilité fonctionnelle, c'est bien évident. Une intelligibilité seconde, c'est bien évident. Mais l'aspect quantitatif, c'est-à-dire l'intelligibilité première et fondamentale, vient de l'âme. Ce sont les rapports de la forme et de la matière. Donc il faut d'abord les comprendre dans une œuvre artistique. Bon, alors nous allons continuer. La dernière fois, j'étais resté à cette induction de l'âme qui nous fait aboutir, vous vous souvenez, au principe radical de toutes les opérations. Je vous avais dit de réfléchir sur ce fait que l'âme est posée comme cause radicale, comme principe radical des opérations du vivant. Alors que la substance était découverte comme cause selon la forme de toutes les déterminations dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est. Alors pourquoi l'âme est posée comme cause radicale et que la substance est posée comme cause selon la forme? Il ne dirait jamais comme cause radicale. Vous vous souvenez, hein? petit problème très important. J'avais essayé de réfléchir là-dessus. Parce qu'on est dans un ordre de l'immanence et on est dans l'ordre de la transcendance, dans l'ordre de l'être. Bien que la substance soit posée selon la forme, c'est-à-dire cause immanente. La substance n'est pas une cause transcendante. C'est une cause immanente à tout ce qui est. Il y a toutes les déterminations de ce qui est. Donc, de ce point de vue-là, elle est identique à cette cause immanente. L'âme est une cause immanente, mais radicale. Donc, toutes les deux sont des causes immanentes. Mais d'un côté, c'est radical, et de l'autre côté, c'est immédiat. C'est très curieux, vous voyez. Parce que nous venons de dire, dans le cours précédent, que cause selon la forme immanente de toutes les déterminations, mais pas d'une matière, toujours de la même façon, puisque c'est média et immédiat. Donc, si c'est média et immédiat, est-ce que c'est pas comme l'âme, cause radicale? Quand je dis cause radicale, ça veut dire que l'âme est source de certaines déterminations, immédiatement, et puis d'autres déterminations, médiatement, par le corps. Alors, est-ce que ce n'est pas exactement la même chose? Est-ce que je ne devrais pas dire, en précisant, que la substance est cause radicale selon la forme de toutes les déterminations. Comme je dis, l'âme est cause radicale de toutes les opérations. Et il y a un petit problème là qui est très curieux. Vous avez essayé de réfléchir là-dessus, si vous vous souvenez. Et vous disiez, c'est la différence entre le vivant et l'être. L'âme est cause de la vie. La vie a une immanence première et l'être a un caractère transcendant premier. Je crois que tout vient de là, mais c'est très difficile à préciser. On voit bien ça, que le propre de la vie, c'est de toujours unir l'être et le devenir. C'est le propre de la vie. Vous voyez ? La vie, certaines distinctions que je fais au niveau de l'être, dès que je suis au niveau de la vie, je ne peux plus les faire. La vie réclame l'opération d'une manière plus immédiate que l'être ne réclame la passion et l'action. L'action et la passion par rapport à l'être sont toujours extrinsèques, sont toujours des accidents. Alors que l'opération vitale n'est pas un accident pour le vivant. C'est quelque chose de substantiel. C'est quelque chose d'obligatoire et nécessaire. Je crois que c'est ça qui va nous permettre de comprendre. Vous voyez, comment le point de vue de la vie fait une synthèse de l'être et du devenir. La vie biologique, hein, toujours. Alors, par le fait même qu'elle fait cette synthèse de l'être et du devenir, on comprend que par rapport aux opérations vitales, qui sont plus immédiatement reliées à l'âme que lorsqu'il s'agit de l'être, les déterminations secondaires des prédicaments ne sont rattachées à la substance. Il y aura donc le besoin de préciser que l'âme n'est pas principe immédiat, mais radical. Je crois que c'est la grande raison. La différence entre l'ordre de la vie et l'ordre de l'être. Vous voyez, je reprends d'une autre manière pour que vous voyez bien. La substance est principe immédiat de la délivrance. étant dit que l'âme n'est pas principe immédiat de mes opérations vitales. Il faut poser une faculté. Il faut coûter une plus puissance. Toujours. L'âme n'est pas principe immédiat d'opération. Tandis que la substance est principe immédiat de forme. Des qualités. De l'intelligence et de la volonté. Parce qu'on est dans l'ordre de l'être. Et dans l'ordre de l'être entre substance et accident, il peut très bien se faire qu'il n'y a aucun métaxus, aucun intermédiaire. Tandis que entre âme et opération vitale, il y a toujours un métaxus. Si vous réfléchissiez là-dessus, vous pourriez comprendre comment en philosophie première, en théologie naturelle, on dira que Dieu ne peut pas se servir d'instrument, donc de métaxus. Tout instrument est un métaxus, dans l'ordre de la création. La création est une opération vitale qui touche l'être. Et une opération qui touche l'être, pas une opération vitale. Une opération qui touche directement l'être. Pas d'intermédiaire possible. Tandis qu'au contraire, la communication de la vie divine se sert d'instrument, de métaxus. Et vous retrouvez quelque chose de semblable. C'est que lorsqu'il s'agit du point de vue de l'être, il y a un caractère immédiat. Quand il s'agit du point de vue de la vie, il peut y avoir des intermédiaires. Et il y a même nécessairement des intermédiaires du côté de l'opération vitale. C'est quand même très curieux de voir cette diversité. Et là, je crois que ça tient au caractère immanent de la vie et au caractère transcendant de l'être. Oui.
N'y a-t-il pas un métaxus entre la substance et certains accidents ?
Oui, ça c'est sûr. Mais puisque dans certains cas, il n'y en a pas. C'est ça qui m'intéresse. Oui, ce sera pour d'autres raisons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il peut y avoir un contact direct, sans intermédiaire. Tandis que ça n'existe jamais pour le vivant. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les autres cas, c'est second.
Je
ne
comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas nécessairement qu'il y a un métaxus dans le monde vivant. Et lors de la création d'Adam et Ève, est-ce qu'il y a une création directement ?
Grave problème là. Je n'entre pas dans cette question. Ce que je veux dire, que la création, quand Dieu crée une âme, il n'y a pas d'intermédiaire. Ex nihilo. À partir de rien. C'est la définition même de la création. Alors le comment de la création d'Adam et Ève, le comment de la création. Oui, c'est dans du comment. C'est intéressant, hein, c'est sûr, mais je ne peux pas en dire grand-chose. Vous avez des opinions, mais vous ne pouvez pas affirmer. Vous ne pouvez pas affirmer que nécessairement Dieu a créé l'homme et la femme à partir de rien. Reste le corps, il n'a jamais créé à partir de rien. Parce qu'il était le potier ou le chirurgien. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il fait à partir de l'âme, oui, parce que l'âme est créée. Vous voyez, au sens tout à fait rigoureux, le corps n'est pas créé. Il est concret. Mais le corps ne peut pas être créé directement. C'est l'âme. Parce que le corps n'est pas principe d'être. Il est principe. Il présuppose un autre principe. Et c'est cet autre principe qui, lui, est créé.
Le monde physique, quand même, il a été créé par...
Comment ? Il a été créé par Dieu. Il a été créé par Dieu pour le monde vital, pour l'intelligence, pour l'homme. Et tout le point de vue de la finalité. comment le monde physique a-t-il été créé au point de départ avant que la vie fût infusée? Je n'en sais rien. Ouvrir toutes les hypothèses possibles, c'est merveilleux. Oui, mais vous n'en savez rien. Il n'existe pas par soi. Oui. C'est ça qui est très difficile. Alors, ça n'est pas gênant, parce que là, vous pensez selon le temps, la succession du temps. Tandis que le regard de la création est éternel. Oui. C'est la patience de Dieu, c'est la patience du Créateur. Au sens rigoureux, c'est l'acte créateur de Dieu regarde ratio entis, la raison d'être. On ne peut pas créer le devenir. C'est pas commode à comprendre. Hein? On ne peut pas créer le devenir, parce que le devenir implique le point de vue de la potentialité et il implique le devenir. Donc au sens strict, on crée des réalités subsistantes. Donc au sens tout à fait strict, seul là. Ça, je crois que c'est très intéressant parce que ça fait comprendre que tous les efforts des savants, vous ne pouvez pas, au nom de la création, dire c'est stupide. Non, pas du tout. Vous êtes dans l'ordre du devenir. Et vous laissez les savants chercher dans l'ordre du devenir. Parce qu'eux regardent le devenir physique. Tandis que la création, elle, au plan métaphysique, regarde l'être. Oui. Ah, tout à fait. Ah, ça laisse tout à fait la possibilité d'une évolution. C'est pour ça que je dis que c'est important de bien préciser, l'évolution ne me gêne pas au point de vue de la création.
Oui, mais alors, comment ça se fait que l'évolution est de au sens, ordinairement, à partir des espèces et tout ça?
Oui. Alors, à partir de l'animal.
Oui,
mais alors, il faut d'abord montrer que métaphysiquement, au point de vue de la création, ce n'est pas impossible. C'est sûr. Mais il y a d'autres raisons. Si le corps de l'homme doit être proportionné à l'âme, c'est là la difficulté. Oui, il y a une proportion entre les deux. Il y a une harmonie parfaite puisqu'il y a une unité d'être. Et une unité substantielle. Alors comment un corps animal proportionné à une âme animale peut-il subitement devenir proportionné à un corps, à une âme spirituelle?
Oui. Est-ce que les savants répondent en tête que alors c'est là que l'acte de Dieu intervient?
Oui. Et alors, vous voyez, c'est là la très grosse difficulté. Et là, vous ne l'expliquez pas par l'évolution. L'évolution ne regarde pas l'âme. L'évolution ne regarde que le monde physique, le monde biologique, mais ne regarde pas l'âme.
Donc en fait, l'âme d'Adam, c'était, hormis le péché en moi, c'était la même que la nôtre.
Ben oui, la même, mais hormis le péché, et l'âme d'Adam était créée, je ne peux parler d'Adam qu'au niveau de la foi. Le savant ne peut pas parler d'Adam, parce que Adam a été créé en justice originelle. Et a été créé, selon Dieu, comme chef de l'humanité. Comme prince de l'humanité. Vous voyez ? Donc, ayant un rôle tout à fait particulier sur toute l'humanité. Responsable de toute l'humanité en face de Dieu. Donc, ce n'est pas un imbécile. Vous voyez ? D'où l'analogie entre Adam et le Christ. Mais tout ça, c'est de l'ordre de la foi. Et alors, vous voyez, mais la foi ne peut pas être en contradiction avec l'évolution. C'est évident. Elle ne peut pas être en contradiction avec la science. C'est évident. Avec la science, la vraie science, pas les hypothèses. L'hypothèse scientifique, c'est tout à fait autre chose. Et dans ce domaine-là, on émet beaucoup d'hypothèses. Parce que vous ne pouvez pas affirmer de façon absolue comment l'homme est apparu. Vous ne pouvez pas. Vous émettez des hypothèses. Oui. Je crois qu'il faut être très net là-dessus. Le comment de l'apparition de l'homme dans notre univers, ça nous échappe. Alors, le philosophe pourra dire telle théorie de l'évolution n'est pas convenable. Avec le petit accent anglais, vous voyez ? Ce n'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en latin, on dira « non est convenience ». Ça rejoint bien ça. « Non est convenience ». « Non convenience hein, » n'est pas convenable. Mais convenable, au sens métaphysique, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le corps est pour l'âme et non pas l'âme pour le corps. Philosophiquement parlant, je suis obligé de dire ça. Alors, si le corps est pour l'âme, et que le corps est encore beaucoup trop grossier, il ne pourra pas être le réceptacle harmonieux de l'âme. Et c'est pour ça que la théorie de l'évolution par rapport à l'animal et à l'homme, ça ne colle pas, philosophiquement parlant. À cause de l'âme. Pas à cause du corps, à cause de l'âme. L'âme humaine étant une âme spirituelle, réclame un corps qui lui soit adapté.
Il faut dire que c'est
inexplicable. Oui, métaphysiquement. Non est-ce c'est contraire à la sagesse. Par rapport à l'homme. Je ne le dis pas au niveau de la foi, hein. Je le dis au niveau philosophique. Au niveau de la foi, je dis, j'en sais rien. Alors, je fais appel à la philosophie. Parce qu'au niveau de la foi, c'est un langage symbolique. Tu as façonné le corps de l'homme. C'est un langage symbolique. Il aurait pu le façonner par la médiation d'animal. C'est possible, puisqu'il est façonné. Point de vue artistique. Mais déjà là, vous voyez, c'est déjà pas commode. Le symbolisme qui est employé montre bien comme un contact direct de Dieu avec la matière. Et ce contact direct de Dieu avec la matière semble bien montrer qu'au point de vue proprement œuvre de Dieu, c'est-à-dire au point de vue chef-d'œuvre de Dieu, tout est repris à partir de l'homme et la femme. Alors là, vous voyez, je dirais, c'est parce que lorsqu'il s'agit de la création, il faut se servir d'analogies artistiques et non pas scientifiques. La création est plus une œuvre d'art qu'une œuvre scientifique. C'est bien évident. Or, l'évolution n'est pas artistique, elle est scientifique. Parlez à un artiste de l'évolution, il rigolera. Si l'artiste dit, mais non, c'est mon inspiration. Est-ce que mon inspiration actuelle, elle dépend de l'inspiration avant ? Pas nécessairement. Il y a des ruptures dans l'inspiration. Chez les artistes, il y a des périodes. Premier Picasso, deuxième Picasso, troisième Picasso, quatrième Picasso. Là, c'est ça, on sait très bien. Il va dire, ah, tout s'explique par l'évolution. Expliquer les... Mais non. Il y a des ruptures. Les inspirations entre elles ont une certaine continuité chez l'artiste. Mais comme telle, c'est quelque chose de nouveau. Alors je crois, vous voyez, on a été très impressionnés. On l'est par le positivisme scientifique. Et on veut expliquer la création en se servant de la science. La science ne nous dit rien de la création. Tandis que les analogies artistiques nous disent beaucoup plus. Il faut réhabiliter l'art. Vous voyez, l'artiste a un sens beaucoup plus grand de la création que le savant. Je dirais, le savant, il n'a pas du tout le sens de la création. Parce qu'il a un sens, vous voyez, du corps, de l'aspect du corps et non pas de l'âme comme telle. Le biologiste ne sait pas ce que c'est que l'âme. Et c'est ce qui explique tous les problèmes d'aujourd'hui, si difficiles, de bioéthique. Ces problèmes bioéthiques aujourd'hui sont extrêmement difficiles parce que subitement, le biologiste se trouve en face de cas extrêmes. Or, il ne parle jamais de l'âme. Alors, vous ajoutez bioéthique. L'éthique part de l'âme. Bio part du corps. Et vous collez deux choses qui ne collent pas. Ça qui est extrêmement curieux. Et je crois que pour la création, il y a quelque chose d'analogue. L'évolution, c'est bio. La création, c'est métaphysique. Alors comment voulez-vous coller les deux? On devrait dire, je ne connais rien de l'apparition de la vie dans le monde. Je ne connais rien de l'apparition de l'homme et de la femme dans le monde. Si on était tout à fait honnête, parce que la causalité matérielle ne peut pas expliquer cette apparition nouvelle.
Il y a quand même un progrès dans les sciences. Est-ce qu'on ne peut pas estimer que les sciences, à terme, pourront nous apporter quand même des éléments de connaissance?
Non, parce que ça reste toujours dans la même causalité. Le savant comme tel, selon la méthode, hein, c'est la méthode scientifique. C'est la méthode scientifique, ce que je vous disais au point de départ. La différence entre une méthode scientifique et une méthode philosophique. La méthode scientifique interdit le savant d'aller plus loin. Il ira toujours plus loin dans la précision, oui, dans l'analyse. Jusqu'à un moment donné, il dira, pas plus, mes instruments ne me permettent plus. Je suis fidèle à mon instrument. Je suis fidèle à l'expérience que j'ai par mon instrument. Je ne peux pas aller plus loin. Oui. Tandis qu'au contraire, le philosophe, ayant comme point de départ un autre, il est beaucoup moins précis, c'est la connaissance analogique. C'est pour ça que ça mettra toujours un peu le savant en boule. Et alors, la tentation, c'est Claude Bernard, c'est extrêmement significatif pour relire de temps en temps 10 livres de Claude Bernard sur la méthode expérimentale. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors il dira la métaphysique, sentiment. Poétique. Il a tout dit quand il a dit ça. Et même, vous voyez, même à Fribourg, quand on a affaire à des philosophes qui sont dans le structuralisme, qui sont dans tout l'aspect de la science, de la philosophie du langage. La philosophie uniquement de la science. De la logique mathématique. Dès que vous abordez le problème métaphysique, ils diront poétique. Parce que, de fait, ce qui est en tant qu'être, et alors a fortiori, si vous parlez d'être premier, vous ne pouvez pas parler de la création sans parler de l'être premier, puisque c'est l'opération propre de l'être premier. Alors, dire poétique, c'est quelque chose qui nous échappe. Et, vous voyez, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître que la science n'est pas tout. C'est là où l'artiste est très précieux. Vous voyez, parce que l'artiste dira au savant, eh bien, il y a un autre langage que le langage scientifique. Il y a un autre langage, il y a un langage poétique. Il y a un langage pictural qui est un autre langage. Oui.
Est-ce que mon père, en fait, que les scientifiques ne projettent pas
Oui.
Est-ce que les scientifiques ne projettent pas un caractère propre finalement de la science qui est de constamment évoluer sur les autres manières de connaître?
Oui, mais absolument. Pourquoi?
Et d'ailleurs, il suffit, et est-ce qu'il ne suffirait pas que simplement d'attendre le progrès de cette précision qui se fait constamment,
oui,
pour simplement attendre que se casse la figure, le modèle qui a été construit à partir des données élémentaires.
Exactement. Quand ils commencent à se casser la figure, ils reconnaissent qu'il y a autre chose. Mais c'est ennuyeux d'attendre trop longtemps. Je sais qu'elle est maintenant. Mais c'est intéressant de voir où a été l'erreur. Vous voyez? Pour ne pas retomber. Parce que ce qui arrive très souvent, quand on se casse la tête, on recommence la même chose. Et le petit gosse, quand il recommence immédiatement, il n'a pas réfléchi entre deux. Il s'est cassé la tête. Pourquoi? Et instinctivement, il recommence. Et on retombe dans les mêmes erreurs. Et donc, il y a toujours, et c'est l'avantage, quand une théorie n'est plus acceptée, parce que l'aspect passionnel n'est plus là. Vous voyez, il y a 40 ans, l'évolution, c'était passionnel. Je me souviens d'un dialogue entre professeur dominicain, au point de vue philosophique. Bon, ce que je vous dis là, je le disais autrement, mais c'était toujours un petit peu la même chose, c'est que l'évolution n'est pas philosophique. Qu'est-ce que peut dire